France Musique.
S'il fallait justifier devant l'Éternel l'invention de l'enregistrement par les hommes, ce petit coffret y suffirait. C'est notre légende du jour, l'un des disques les plus poignants du monde, le Tristan de Carlos Kleiber.
Thank you.
Carlos Kleiber et la Staatskapelle de Dresde dans le prélude de Tristan et Isolde de Richard Wagner. Carlos Kleiber n'aimait pas les enregistrements, on le sait, il en a fait très peu. Son intégrale chez Deutsche Grammophon tient en une douzaine de disques, presque à la chaque fois géniaux. Un Freischütz, une Traviata, la septième de Beethoven et puis surtout ce Tristan de 1982 qui avait été préparé par le concert. Quelques années auparavant, en 1974, pour ses premiers pas à Bayreuth, Kleiber avait dirigé une série de représentations de Tristan à ce point remarquable que DG s'était décidé à lui confier une intégrale. Pourtant, on savait qu'il était imprévisible et même par certains côtés impossible, mais Bayreuth avait été tellement exceptionnel. Svetoslav Richter, le pianiste, y était en 1976. Il était sorti en disant « Aussi longtemps que je vivrai, je n'entendrai jamais un Tristan comme celui-ci ». Kleiber a amené la musique à son point extrême d'ébullition et l'y a gardé toute la soirée.
Thank you.
Au deuxième acte de Tristan et Isolde de Richard Wagner, c'était le duo ici entre Margaret Price et René Collo, avec à l'instant la Brangaine de Brigitte Fassbender. La distribution, justement, elle était choisie par le chef, Carlos Kleiber. Distribution tout à fait improbable et qui a fait beaucoup jaser à l'époque. La Fassbender en Brangaine, par exemple, ça se conçoit bien sûr. Kurt Moll en Roi Marc, parfait. Mais René Collo, qu'on vient d'entendre là, qui avait toujours été un ténor plutôt léger, pas un ténor d'opérette, mais pas loin. En plus, il était physiquement et vocalement fragile. Oui, mais justement, c'est cette fragilité qui donne, par exemple, au troisième acte, son poids de désespoir avec ce chanteur en plein délire entre l'exaltation et l'effondrement. L'orchestre, par exemple, cette Staatskapelle de Dresde, on aurait pu dire, et on a dit parfois à l'époque, pourquoi n'avoir pas pris l'orchestre du festival de Bayreuth, qui aurait été idoine. Oui, mais c'est ignoré que Wagner avait connu cet orchestre de la Staatskapelle quelques décennies auparavant, qu'il l'appelait même la harpe enchantée. Kleiber savait quel son il pouvait tirer de cela. Le son, justement, vous savez, il y a un son pour les enregistrements vraiment légendaires. Celui, par exemple, du Péléas de Roger Desormières, qui ne ressemble à aucun autre. Ou celui du Tristan de Kleiber, qui se reconnaît immédiatement. C'est un Tristan expressément fait pour et par le disque, et pour l'infini que le disque peut creuser dans notre quotidien. prélude du troisième acte de Tristan et Isolde de Richard Wagner. C'était la version de Carlos Kleiber avec les membres de la Staatskapelle de Dresde. On a écouté ici que l'orchestre à propos de la distribution que j'évoquais tout à l'heure. J'ai pas parlé du cas Margaret Price. Lorsqu'on a su que Kleiber avait choisi Margaret Price pour chanter Isolde, personne n'y a cru. On s'est dit que c'est encore une anomalie de distribution. Superbe chanteuse, bien sûr, mais une mozartienne, une comtesse des Noces de Figaro, qui n'a rien à faire a priori avec Isolde, rôle vocalement disproportionné, qu'elle n'avait d'ailleurs jamais fait sur scène et qu'elle ne ferait jamais. Carlos Kleiber savait que les micros pâliraient à d'éventuels défauts de projection. Ce qu'il y avait surtout, c'est ce que Margaret Price lui apportait. La pure beauté du timbre, la douceur, la poésie, un côté presque confidentiel et une fois encore une fragilité dans cette musique qu'on confie en général à des voix d'airain. Comme tous les autres chanteurs, en plus de cette distribution assez bizarre, il y avait un engagement chez elle presque existentiel dans la musique et particulièrement dans ce Tristan tellement unique. Bref, vous l'aurez compris, ce disque, c'est pas seulement un disque, c'est pas seulement l'œuvre d'un chef artiste sans équivalent, c'est une leçon d'humanité, tout simplement. Me dites pas que vous avez jamais entendu quelque chose de plus beau. La mort d'Isolde qui referme Tristan et Isolde de Richard Wagner, chanté par Margaret Price. C'était la Staatskapelle de Dresde, dirigée par Carlos Kleiber pour cette intégrale Deutsche Grammophon en 1982. Un disque parfait, dirons-nous. Oui, pour être complet quand même, je signale qu'il y a eu beaucoup de travail, de répétition et d'enregistrement sur presque 2 années et que l'imprévisible Kleiber a claqué la porte sans finir l'enregistrement. Bah oui, il a fallu que les ingé-sons recollent des morceaux de répétition pour arriver à boucler la chose, histoire de faire mythe jusqu'au bout. Le Tristan de Carlos Kleiber, c'était notre disque de légende, à retrouver, podcaster, pleurer avec et monter au ciel sur francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Bon, comment on se remet d'un truc pareil, Tristan par Kleiber? Eh ben, on doit laisser glisser un petit air de flûtio, comme ça, l'air de rien. La tempête en mer, de l'ami Vivaldi. Thank you. Les trois mouvements de La Tempesta di Mare et La Tempête en mer, concerto Rium 433 d'Antonio Vivaldi par la Pastorella, menée depuis le flutio, entendez bien le flûte à bec, par Frédéric de Rose. Un dernier coup de cœur d'auditrice avant de refermer ce relax, il nous est donné par Madame Daubigné. La semaine dernière, je vous proposais en disque de légende l'intégrale des concertos de Rachmaninov par Vladimir Ashkenazy. Ça rappelait à notre fidèle que Rachmaninov lui-même a enregistré ses œuvres, entre autres le premier concerto avec Eugène Ormandy et l'orchestre de Philadelphie. Alors attention, c'est gravé en 1940, ça gratouille un poil, mais c'est Rachmaninov tel qu'en lui-même l'éternit et le range.
Thank you.
Le premier mouvement du premier concerto de Serge Rachmaninoff, concerto pour piano bien sûr, joué ici par lui-même. C'est en 1940 avec Eugène Ormandy et l'orchestre de Philadelphie. C'est d'ailleurs drôle parce que les cordes de l'orchestre sous la direction d'Eugène Ormandy s'épanchent, glissent incroyablement en plein délire romantique, alors que Rachmaninoff lui-même est à la fois très souple et plus sobre, comme s'il nous disait « Vous savez, moi le romantisme, point trop d'en faux, je fais du son !» Et il est beau son, il faut le dire tout de même. Un grand merci à Florian Henault, Antoine Courtin et Adelino Mello, et je ne réponds pas à Hervé, qui me dit sur son dernier mail, Hervé qui préfère dans Tristan Carl Böhm à Carlos Kleiber. Non, je ne vous réponds pas monsieur, je ne préfère même pas lancer le débat. Je préfère pas en parler, je vais pleurer dans mon coin. Bonjour Aurélie Moreau.
Bonjour Lionel Esparza.
Au programme du van ce soir, nous on va essayer, non? Surtout que c'est un pianiste qui nous fait pas pleurer. Ah vous êtes gentil. Qu'est-ce qu'on a ce soir, dites-moi?
Un grand pianiste romantique. Vous disiez à l'instant que Rachmaninoff ne jouait pas de manière romantique. Ben voilà,
pas
un pianiste qui joue de manière romantique, c'est le pianiste Henri Bolette, qui est au programme du van Beethoven. Bonne soirée Lionel, ne pleurez pas, s'il vous plaît.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.